Quand investissent les banques d'investissement? On parle de banque d'investissement car en plus d'aider au fonctionnement du marché primaire, les banques d'investissement achètent parfois elles-mêmes des actions et des obligations. On considère donc qu'elles investissent, même si ce terme dépend en réalité de l'endroit où les produits financiers sont effectivement achetés, marché primaire ou secondaire. Cela dit, il existe une autre forme de marché primaire. En effet, les banques d'investissement agissent parfois comme un intermédiaire plus avancé. Au lieu de conseiller les émetteurs dans le but de vendre de nouvelles actions ou obligations à des fonds d'investissement, les banques d'investissement peuvent se faire prêter de la monnaie à elles-mêmes, via l'épargne ou la création monétaire, pour ensuite prêter à des entreprises. Dans ce cas, on parle de loans plutôt que d'obligations. Le terme de banque d'affaires est utilisé pour décrire ce genre d'activité.
Le marché secondaire, l'occasion de la finance. Qu'il s'agisse de remplacer des produits financiers par d'autres, ou bien de s'en débarrasser pour retrouver de la monnaie, comment permettre aux épargnants de changer d'avis une fois qu'ils ont investi sur les marchés? De la nécessité d'un marché de l'occasion. Il s'agit avant tout d'un problème de flux. Une fois les actions ou les obligations émises, les entreprises et les États s'en vont utiliser la monnaie que l'on vient de leur transférer pour financer leurs différents projets. La monnaie s'en est allée payer des salaires et acheter des biens et des services dans l'économie réelle. De plus, sauf cas exceptionnel, les entreprises et les États ne rachètent pas leurs propres produits financiers, ce qui fait d'eux des vendeurs lors de l'émission, mais jamais des acheteurs. En réalité, les entreprises rachètent parfois leurs propres actions, une autre méthode que les dividendes pour rémunérer les actionnaires, et leurs propres obligations, une forme de remboursement anticipé. Cependant, les fonds d'investissement demeurent responsables de la meilleure gestion des possessions de leurs clients, les épargnants. Afin que cette gestion soit efficace et dynamique, il faut pouvoir changer d'avis sur les bons produits financiers à posséder. En effet, l'actualité fournit constamment de nouvelles informations qu'il faut intégrer aux valorisations, aux prédictions de bénéfices et aux estimations de risque de non-remboursement, ce qui peut faire un jour préférer X à Y et le lendemain Y à X. De plus, les fonds d'investissement se voient confier et retirer régulièrement des mandats de gestion. Je traduis, chacun dans leur coin, les épargnants décident d'ajouter de la monnaie dans les tirelires, nouveaux mandats de gestion, ou au contraire de récupérer leur mise, retrait des mandats de gestion. Ce qui pose un problème de flux. Un fonds dans lequel la nouvelle épargne confiée est supérieure au retrait se retrouve avec de la monnaie sur les bras, qu'il doit diriger vers l'achat de produits financiers. À l'inverse, un fonds dans lequel les retraits sont supérieurs au montant nouvellement confié doit pouvoir vendre des produits financiers afin de rendre leur mise aux épargnants avec une plus ou moins-value. Que l'on appelle marché secondaire. C'est de cette double nécessité, celle de pouvoir changer d'avis et celle de pouvoir rendre leur mise aux épargnants, que naît le besoin d'avoir un marché de l'occasion des produits financiers, un marché secondaire. En effet, de la même manière que vous pourriez avoir besoin de vendre votre voiture ou d'en changer pour un autre modèle, d'occasion ou pas, il est normal que vous ayez accès à un marché permettant ce type de transaction. Résumons le rôle du marché secondaire dans l'économie réelle. En plus de permettre aux fonds de changer d'avis par rapport aux produits financiers qu'ils ont sélectionnés, les flux sortants des marchés et dirigés vers l'épargne permettent aux épargnants de pouvoir récupérer leur mise. Cela implique que les fonds peuvent acheter et vendre des produits financiers d'occasion. C'est le marché secondaire. L'organisation des échanges sur la planète finance. La question qui se pose maintenant est: comment organiser ces deux marchés du neuf et de l'occasion des produits financiers? Comment faire se rencontrer les acheteurs et les vendeurs? La réponse à cette question nous est tellement familière qu'il nous arrive de l'oublier. Le meilleur moyen de faire se rencontrer les acheteurs et les vendeurs, c'est en leur donnant rendez-vous dans un lieu commun. Le magasin et le marché sont deux exemples de ce type de lieu. Dans le premier, producteurs et acheteurs ne se rencontrent pas directement car le magasin agit comme intermédiaire. En revanche, dans le second, les producteurs négocient directement avec les consommateurs. Les dépôts-ventes de la finance, les salles des marchés des banques d'investissement. Les marchés financiers ne sont pas différents. Il existe des magasins de produits financiers qui sont tenus par les banques d'investissement, on parle de salles des marchés, et dont les stocks sont approvisionnés soit par les entreprises et les États qui émettent de nouveaux produits financiers, marchés primaires, soit par des fonds d'investissement qui souhaitent se débarrasser de certains produits, marchés secondaires. Dans ce rôle, les banques d'investissement n'ont pas pour but d'investir, mais simplement d'agir comme des intermédiaires. En effet, elles sont présentes à la fois entre les producteurs, les entreprises et les États qui émettent de nouveaux produits financiers, et les consommateurs, les fonds d'investissement qui cherchent à convertir la monnaie qu'on leur a confiée en produits financiers, et entre les consommateurs eux-mêmes quand ils s'échangent des produits financiers existants. On voit poindre ici la possibilité d'un léger conflit d'intérêts dont nous reparlerons. Des gestionnaires de stock. On peut dire que les banques d'investissement ont ici une fonction de gestionnaire de stock. Vous pouvez vous imaginer qu'elles possèdent un hangar à produits financiers d'une certaine taille. Leur fonction est alors d'avoir un peu de tout en stock afin que les fonds d'investissement acheteurs qui ne trouvent pas leur bonheur sur le marché du neuf puissent venir y faire leurs courses. Mais elles doivent également disposer de suffisamment d'espace libre afin que d'autres fonds d'investissement puissent venir y déposer, vendre, leurs produits financiers en échange de monnaie à rendre à leurs clients, les épargnants, ou pour acheter d'autres produits financiers qui leur conviennent mieux. Si les banques d'investissement sont indispensables pour organiser le marché du neuf et très pratiques pour permettre le fonctionnement du marché de l'occasion, leurs services sur ce deuxième marché sont néanmoins très régulièrement contournés. Pourquoi ? Parce que le rôle d'un magasin qui organise les échanges d'occasion, c'est d'acheter des objets relativement peu chers dans le but de les revendre à un prix supérieur. En d'autres termes, le magasin s'arrange pour acheter bas et revendre haut, ce qui n'est pas dans l'intérêt des fonds d'investissement qui veulent faire exactement l'inverse, vendre le plus haut possible et acheter le plus bas possible. Ainsi, afin d'éviter de payer le service que propose le magasin, ne peut-on pas envisager un système dans lequel les investisseurs s'achètent et se vendent des produits financiers directement entre eux? Ne peut-on pas imaginer un Le Bon Coin pour produits financiers? Le Bon Coin de la finance, les plateformes d'échange. Je suis ravi de vous apprendre que ce système existe depuis 1602 et que sa première version était la Bourse d'Amsterdam. En effet, une bourse n'est rien de plus qu'un lieu où investisseurs et banquiers d'investissement se rassemblent pour s'échanger des produits financiers. Ce qui les différencie n'est a priori rien d'autre que leur motivation. Les investisseurs sont là pour sélectionner des produits financiers qui prendront de la valeur afin de faire fructifier l'épargne de leurs clients, tandis que les banquiers d'investissement sont là pour fournir un service d'achat à prix réduit aux vendeurs et de vente à prix gonflé aux acheteurs. Le Palais Brongniart, que l'on appelle encore aujourd'hui, à tort, la Bourse de Paris, a joué partiellement ce rôle jusqu'en 1998, date qui a marqué l'arrêt de toute activité d'échange de produits financiers en ce lieu. Ce que l'on nomme une bourse n'est donc rien de plus qu'un lieu de rencontre entre acheteurs et vendeurs de produits financiers d'occasion. On dit d'une entreprise qu'elle est cotée en bourse parce que ses actions, parfois neuves mais très souvent d'occasion, s'y échangent. La bourse n'est plus un lieu physique où des hommes survoltés se retrouvent. En effet, les produits financiers ne sont rien de plus que des contrats de prêt et des titres de propriété électroniques, standardisés et régulés. Nul besoin d'être physiquement sur place pour valider un échange. Les bourses étaient des lieux importants quand les moyens de communication étaient limités et que les contrats, faits d'encre et de papier, devaient être authentifiés. Les fonds d'investissement et les banques y envoyaient des marchands spécialisés avec des listes de courses de produits financiers à vendre ou à acheter, les traders. Les bourses remplies de traders qui se hurlent dessus en faisant des gestes obscurs, le seul moyen de se faire comprendre avec précision dans ce brouhaha, n'existent plus depuis bien longtemps, sauf au cinéma et dans de rares places nostalgiques. Ce genre de bourse où les traders sont physiquement sur place existe encore à New York, mais il ne représente qu'une toute petite partie des transactions. En effet, les bourses du monde entier sont aujourd'hui des lieux de rencontres virtuelles, des plateformes d'échange électroniques ou, dit encore un peu différemment, des sites internet. Comprenne qui pourra. Ces plateformes d'échange boursiers sont toujours des lieux physiques dans le sens où aucun site internet ne peut fonctionner sans des serveurs alimentés en électricité et refroidis en permanence. La Bourse de Paris, ou plutôt les serveurs qui lui permettent d'exister, se situe ainsi à Basildon, dans la banlieue de Londres. Autrement dit, la Bourse de Paris est à Londres. D'ailleurs, il ne s'agit plus réellement de la Bourse de Paris puisque s'échangent sur cette plateforme électronique des actions émises par des entreprises françaises, belges, néerlandaises, irlandaises et portugaises. Le marché de l'occasion des produits financiers est nécessaire pour permettre aux fonds d'investissement de changer d'avis et de rendre leur mise à leurs clients, les épargnants. Celui-ci s'organise autour de magasins de produits financiers, les banques d'investissement, et de sites internet, les bourses, où acheteurs et vendeurs, fonds d'investissement ou banques d'investissement, se rencontrent librement. Les marchands spécialisés à qui sont confiées des listes de courses de produits financiers, qui autrefois se rendaient dans un bâtiment appelé « bourse » pour se hurler dessus, sont aujourd'hui en permanence connectés informatiquement aux banques d'investissement et aux plateformes d'échange boursiers. Ce sont les traders. Ils passent leur temps devant des rangées d'écrans à scruter ce que l'on appelle les marchés. Revenons sur les liens entre marché primaire et secondaire et le rôle des fameux intermédiaires que sont les banques d'investissement et les bourses d'échange. Les banques d'investissement agissent comme des magasins à produits financiers d'occasion. Elles gèrent un stock de produits financiers qui permet aux fonds d'investissement d'acheter ou de vendre. Contrairement aux fonds, les banques d'investissement n'ont pas pour but de choisir les produits financiers les plus prometteurs, mais simplement de disposer d'un large choix. Les plateformes boursières fonctionnent comme des sites internet sur lesquels tous les acteurs des marchés, fonds et banques d'investissement, peuvent s'échanger des produits financiers. Suis-je en train de vous perdre ? Comprendre la manière dont les plateformes boursières fonctionnent actuellement est sans aucun doute important afin de comprendre la manière dont les marchés financiers opèrent. Alors, zoomons encore un peu sur le mécanisme des marchés financiers et notamment sur leur place forte, les bourses. Petit zoom sur le fonctionnement des places boursières. Il est important de bien comprendre la distinction entre le magasin de produits financiers, la salle des marchés gérée par une banque d'investissement, et le site internet de produits financiers, c'est-à-dire la bourse, ou plus précisément la plateforme d'échange automatisée. Il y a traders et traders. Nous avons déjà vu qu'un trader est un marchand spécialisé dans l'achat et la vente de produits financiers. Autrement dit, un trader n'est ni plus ni moins qu'une personne qui achète et vend des produits financiers. Il existe néanmoins trois types de traders. Les simples exécutants, on leur confie une liste de courses de produits financiers et ils se chargent d'acheter et de vendre au meilleur prix. Les gérants des tirelires que sont les fonds d'investissement, en plus d'exécuter, ceux-là choisissent les produits financiers à acheter ou à vendre, ils sont en quelque sorte des gérants traders. ceux qui travaillent dans les fameuses salles des marchés des banques d'investissement. Leur rôle est alors très différent puisque, nous l'avons dit, la banque d'investissement propose un service de gestion de stock. Elle est là pour acheter à prix bas les produits financiers que les fonds cherchent à vendre et pour vendre, à prix élevé, ceux que les fonds cherchent à acheter. On appelle ces traders gestionnaires de stock des market makers, littéralement des faiseurs de marché. Pourquoi les fonds passeraient-ils par les services d'un market maker plutôt que directement par une plateforme d'échange? Pourquoi ne pas directement se connecter au site internet boursier et vendre ou acheter directement à un autre fonds d'investissement? Cela ne coûterait-il pas moins cher? Qui tient les cordons des bourses? Pour bien comprendre, il faut d'abord expliquer comment fonctionne une plateforme d'échange boursier. Tout d'abord, ces plateformes ne sont pas des services publics, elles sont gérées par des entreprises privées. La Bourse de Paris, qui porte le nom d'Euronext, est une entreprise privée qui a choisi, probablement pour des raisons techniques et de coûts, d'installer les serveurs de sa plateforme en Grande-Bretagne, dans la banlieue de Londres. Ce genre d'entreprise enregistre du chiffre d'affaires de 5 manières principales. Elle peut faire payer des abonnements de connexion aux traders, qu'ils travaillent pour des fonds, pour des banques d'investissement ou autres, qui souhaitent avoir accès à sa plateforme. Elle fait payer des frais de transaction pour chaque échange réalisé sur sa plateforme. Elle démarche les entreprises afin de les convaincre de payer des commissions pour faire lister leurs actions sur sa plateforme. Autrement dit, les entreprises cotées doivent payer les gestionnaires de plateforme pour que leurs actions y soient échangées. Elle peut proposer un service administratif de règlement livraison, transfert des produits financiers depuis le compte du vendeur vers celui de l'acheteur. Elle compile les informations d'échange, prix, volume, et les vend à ceux qui sont intéressés, principalement des sociétés de gestion ou des banques d'investissement qui utilisent ces données pour réaliser différentes analyses. Mais les plateformes d'échange sont nombreuses. Par exemple, la plateforme gérée par Euronext voit transiter 65% du volume total des échanges d'actions d'entreprises françaises, tandis qu'une autre plateforme, gérée par une autre entreprise, BATS Global Markets, en voit transiter 20%. Parmi les entreprises qui gèrent les plus grosses plateformes mondiales d'échange de produits financiers se trouvent des noms tels que le New York Stock Exchange, le Nasdaq, Euronext ou encore le London Stock Exchange. Toutes ces entreprises sont privées et sont également cotées en bourse, si bien que leurs actions s'échangent sur leur propre plateforme. Bref, de la même manière qu'il est possible d'acheter un même objet sur plusieurs sites internet différents, il est possible d'acheter les actions d'une même entreprise sur plusieurs plateformes différentes. Derrière chaque plateforme se trouve une entreprise privée dont le chiffre d'affaires est basé sur un système d'abonnement, de frais d'utilisation et de référencement. Petites annonces et grosses affaires. Si je suis certain que vous êtes habitué au fonctionnement des sites d'e-commerce, le fonctionnement d'une plateforme d'échange est un petit peu différent. Il existe, je simplifie, deux méthodes pour acheter ou vendre des actions sur une plateforme boursière. Poster une petite annonce, répondre à une petite annonce. À quoi ressemble une petite annonce boursière? À cela. Je suis acheteur de 523 actions initialement émises par l'entreprise XYZ à un prix de 32,25 € par action. Il y a quatre éléments principaux à prendre en compte. Le sens, acheteur ou vendeur, la taille, le nombre d'actions souhaitées, les actions recherchées, ici les actions XYZ, et le prix souhaité. Une plateforme d'échange est remplie de ce genre d'annonces. Les traders ont le choix entre parcourir les annonces et y répondre ou envoyer de nouvelles annonces. Pour reprendre mon exemple précédent, répondre à mon annonce signifie accepter de me vendre 523 actions XYZ à 32,25 €. L'opération s'effectue en un clic. Une fois celle-ci enregistrée, la plateforme indique qu'une nouvelle transaction vient d'avoir lieu à un prix de 32,25 € et pour une quantité de 523 actions. Le cours de la bourse, tout simplement un historique de transactions. Il s'agit d'une information cruciale. Un cours de bourse n'est rien de plus qu'un historique de transactions. Chaque point de la courbe qui présente l'évolution du prix d'une action correspond à un échange réalisé dans un passé plus ou moins lointain. Lorsque l'on vous annonce que le prix de l'action XYZ est de 32,25 €, on vous dit en réalité que la dernière fois que des actions XYZ ont changé de main sur une plateforme d'échange bien spécifique, acheteurs et vendeurs se sont mis d'accord sur un prix de 32,25 € et sur une quantité de 523 actions. Autrement dit, si votre souhait est de vendre 10 000 actions XYZ, rien ne garantit que vous allez obtenir un prix similaire. Tout dépend des petites annonces disponibles au moment où vous allez prendre la décision de vendre. De la difficulté de vendre. Si toutes les petites annonces proposent des tailles qui tournent autour de 500 actions, en réalité cela varie en fonction des actions, vous allez devoir répondre à une vingtaine d'annonces, toutes proposant des prix différents, afin de vendre vos 10 000 actions. En outre, de nouvelles annonces apparaissent et disparaissent constamment au fur et à mesure que de nouvelles annonces sont envoyées, qu'elles sont annulées ou que quelqu'un y répond. Le prix de vente de vos 10 000 actions correspondra donc à la moyenne des prix obtenus en fonction des annonces disponibles. Une méthode somme toute très incertaine. Une autre possibilité s'offre à vous si vous souhaitez vendre. Postez une annonce de vente de 10 000 actions au prix souhaité. Mais rien ne garantit que quelqu'un répondra à votre annonce. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas de vouloir vendre pour vendre effectivement. Poster une annonce de vente ne signifie pas vendre. Encore une méthode bien incertaine. Enfin, l'utilisation de la plateforme nécessite, parfois, le paiement d'un abonnement et, très souvent, d'une petite commission pour chaque transaction réalisée. Au regard de toutes ces difficultés, passer par un magasin de produits financiers, une banque d'investissement, ne serait-il pas plus avantageux? Market makers versus plateforme boursière. Un gestionnaire de stock de produits financiers employé par une banque d'investissement, un market maker, a l'avantage de proposer un prix unique pour l'ensemble des actions que vous souhaitez vendre. À nouveau, je simplifie. Ainsi, le market maker vous proposera peut-être d'acheter vos 10 000 actions XYZ à 31,50 € par rapport à la dernière transaction effectuée sur la plateforme à 32,25 €. Le service est intéressant parce qu'il vous débarrasse de l'incertitude et des frais de transaction associés à l'utilisation de la plateforme. Cela dit, rien ne garantit que ce prix de 31,50 € est plus intéressant que ce que vous auriez pu obtenir via la plateforme. Voilà pourquoi plateformes d'échange et banques d'investissement coexistent. Les services proposés par les banques d'investissement conviennent mieux aux énormes fonds d'investissement qui ont des quantités très importantes d'actions à vendre ou à acheter. Cela leur permet de faire leurs courses rapidement, sans incertitude quant au prix qu'ils obtiendront. Les plateformes d'échange sont de leur côté très intéressantes pour les fonds qui veulent prendre le temps d'obtenir le meilleur prix possible, même si cela est risqué puisque les cours peuvent à tout moment partir dans n'importe quel sens.